Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril et je suis très contente de vous retrouver pour cette émission autour de l'actualité en Mayenne, émission que vous pouvez retrouver sur l'autre radio du lundi au vendredi, bien sûr. Et aujourd'hui, on va dérouler un petit peu le programme. J'espère qu'il sera alléchant pour vous, bien sûr. Mais on a tout donné, hein, puisque là, on va vous parler d'un projet qui mêle à la fois le théâtre, les arts plastiques, et puis aussi un petit peu d'histoire, un petit peu les archives proposées par les organisateurs des Nuits de la Mayenne avec deux artistes plasticiens. Il y a une réunion pour ce projet-là, eh bien jeudi justement, pour participer au Festival des Nuits de la Mayenne cet été d'une autre manière et fêter, comme il se doit, les 50 ans de l'événement. Et puis on va parler aussi aujourd'hui, on va rester dans la culture, on va parler aussi poésie à la fois publiée, et mais aussi des ateliers de poésie pour soi-même écrire et en tout cas s'exprimer avec vraiment cette notion de mieux être grâce à l'écriture. Et ça, ce sera avec la Mayennaise Stéphanie Pruvot-Tréguier qui a été récompensée pour l'un de ses ouvrages il y a peu de temps et qui propose bien un atelier là aussi dans peu de temps ce samedi à Argentré. On va en parler dans l'interview de ce mardi. Et puis on retrouve notre rendez-vous classique. Que serait un agité du local du mardi sans la chronique de Donatien? Ah là là, sans doute pas grand-chose. En tout cas, on retrouvera la chronique de Donatien en fin d'émission, en tout cas dans une deuxième partie d'émission, on va dire plutôt, donc d'ici une vingtaine de minutes. Et oui. Et donc, pour cet anniversaire, ces 50 ans des Nuits de la Mayenne, vous pouvez mettre la main à la pâte, et oui, grâce à des œuvres participatives autour des archives du Festival de théâtre itinérant en Mayenne l'été, dans le cadre d'un projet mené par deux artistes plasticiens en résidence dans le département depuis maintenant le mois de janvier, OPJ Siguenec et Julie Poulain. Tous les deux découvrent à la fois le département et le festival pour préparer leurs œuvres pour juillet-août prochain. Le tout en s'appuyant sur différentes sources, précise Julie Poulain.
On a deux types de matières. On va avoir les archives, donc les archives départementales et les archives privées du festival, qu'on consulte pour un peu avoir accès aussi à l'histoire du festival. Et puis il y a une deuxième partie qui va être, oui, les rencontres. Alors les rencontres, comme je vous ai dit, d'acteurs passés du festival qui vont nous raconter aussi l'histoire de celui-ci. Donc on a rencontré par exemple Annie Guichard, la fille de Jean Guichard, qui est une des personnes qui a l'initiative de la création de ce festival. On a rencontré Siki Darlion aussi. Aussi, on rencontre des spectateurs, des bénévoles. On a rencontré des artistes aussi. Donc c'est à la suite de ces rencontres-là qu'on a pensé nos formes. Parce que l'idée, c'est d'investir le déploiement du festival concrètement cet été. Il va y avoir en fait l'idée d'investir le temps d'accueil, l'avant-spectacle. Ce qui est intéressant dans le festival, c'est qu'il investit des lieux qui ne sont pas des scènes de théâtre. Et du coup, il y a tout un endroit qui est pour eux, entre le village, le château qui accueille le spectacle et la scène. Et nous, en fait, on va produire des formes qui vont travailler là-dessus. On va être dans des formes qui vont inviter le public à s'emparer d'objets pour brouiller un peu cette frontière-là entre le spectacle et la vie. Et la deuxième forme, ça sera une forme plus classique, une exposition qui aura lieu dans une salle qui s'appelle La Bergerie au château de Sainte-Suzanne. Une nouvelle version de ces œuvres-là, parce que du coup, elle ne sera pas incarnée, et d'autres formes qui mettront peut-être davantage en scène les archives, en fait. La dimension participative, elle est pareil à deux niveaux, c'est-à-dire que on va créer des objets, des sculptures qui sont des objets à manipuler et à installer. Donc ça sera des gestes très très simples, hein. Ça sera mettre en place des accessoires, des objets. Et puis il y aura une deuxième partie qui sera, ces formes seront à déployer durant le festival, mais ça sera de l'ordre des gestes très simples, porter un accessoire, franchir un portique, partager une réplique. Et là, ça sera le public dans son ensemble qui sera invité à faire ces gestes-là.
Pour devenir bénévole pour ce projet ou tout simplement avoir plus d'informations, une réunion est organisée à 18h30 ce jeudi à Mayenne Culture à Laval. Les artistes précisent qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait du théâtre ou des arts plastiques avant pour participer. Vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@mayenneculture.fr. On va passer à une petite pause musicale avec Lake Street Dive, Feels Like the Last Time. Said I'm head over heels, and I'm dying to know if you feel like you did. Cause it feels like the last time I fell in love with you. It's those l'artiste et le titre qui mettent à rude épreuve mon accent anglais, c'était Lake Street Dive, Feels Like the Last Time dans l'agité du local sur l'autre radio. Ça, c'est ce que vous venez bien sûr d'écouter. On va passer maintenant à l'interview avec celle qui a remporté un concours international de poésie. Et oui, pas si fréquent. La Mayennaise Stéphanie Pruvot-Tréguier a été récompensée il y a quelques semaines à Dijon pour son recueil L'Enfant Lumière. Une première pour cette autrice prolifique chez elle, mais qui participait à un concours de poésie seule pour la première fois, portée par une passion pour l'écriture qu'elle partage volontiers lors d'ateliers bien-être.
Bonjour, je me suis Stéphanie Pruvot-Tréguier. Je suis médiatrice culturelle, responsable du service des publics dans un musée et en parallèle, j'ai également une activité autour de l'écriture, tant dans la publication que dans l'animation d'ateliers d'écriture à viser mieux-être, à viser bien-être.
ces deux aspects effectivement dont on va parler dans cette interview. On va commencer par l'actualité, puisque vous avez l'un de vos recueils de poèmes, de poésie, qui s'appelle L'Enfant Lumière, qui a remporté le prix de l'édition poétique de la ville de Dijon. C'était il y a quelques jours, c'est ça ?
Oui, tout à fait. La remise du prix était le 18 mars à Dijon.
Avant de revenir sur ce recueil-là en particulier, je voulais savoir si vous aviez toujours écrit, finalement, si ça a toujours été quelque chose d'important aussi dans votre vie.
Oui, tout à fait. J'aime bien dire qu'avant de savoir écrire, je dessinais. Et qu'une fois que j'ai découvert vraiment l'apprentissage de l'écriture, j'écrivais déjà des poèmes à 6 ans. Donc ça m'a toujours accompagnée.
Et alors là, on parlait effectivement de ce recueil de poésie-là. Il y en a eu d'autres avant ?
Il y a plein d'écrits chez moi, mais pour moi, pour l'instant, j'ai pas franchi le cap pour l'instant d'éditer d'autres recueils. Donc c'est vraiment une première vraie récompense pour moi.
Première vraie récompense, vous parlez d'édition justement, puisque là, que permet ce prix ?
Alors, ce prix permet d'avoir le recueil qui est publié en 500 exemplaires, dont 150 sont remis aux candidats, enfin aux lauréats plutôt. Et donc, sur les 500, voilà, ça va être diffusé un petit peu sur le réseau, notamment tout réseau poésie autour de Dijon. Et pour que le lauréat puisse quand même diffuser au niveau local, voilà, il revient avec son recueil publié, édité.
Qu'est-ce qui vous a incité à justement proposer ce recueil pour un concours, puisque vous disiez il y a plein d'écrits chez vous, mais à quel moment on passe le pas pour se dire bon, on tente le concours, qu'est-ce que vous souhaitiez, qu'est-ce que vous cherchiez ?
C'est assez récent le fait que je franchisse le cap de participer à des concours, à des appels à texte, comme on dit. Donc j'ai quelques autres publications, en fait, hein, tant au niveau des nouvelles que des poésies, mais dans des collectifs. Et j'ai eu envie, en fait, d'avoir quelque chose avec plusieurs textes, en fait, qui se tiennent, de raconter une vraie histoire. Et j'ai plusieurs recueils. Et en fait, ce recueil est le dernier que j'ai écrit. Et j'ai senti que c'était celui-ci qu'il fallait que j'envoie, puisqu'il y a peu de concours où on peut envoyer un recueil dans son ensemble, en fait.
Donc là, ça vous permettait justement de présenter l'œuvre en entier. Pourquoi ce titre, L'Enfant Lumière ?
L'Enfant Lumière, pour beaucoup de choses. Déjà, c'est un titre qui s'est un peu imposé à moi. J'ai pas cherché très longtemps. C'est un recueil qui raconte une expérience, un vécu assez douloureux d'un enfant qui n'est jamais né, mais qui a existé quand même. Voilà, c'est un sujet dont je trouve qu'on parle pas beaucoup et pourtant qui arrive à plein de personnes. Et c'est un peu l'enfant qui n'est jamais venu à la lumière, mais l'enfant qui est resté dans la lumière aussi. C'est vraiment quelque chose de lumineux, en fait. C'est un recueil qui parle des espoirs, des déceptions, qui est un peu autour de ce deuil, mais qui est plein de vie, en fait. Plein de lumière. La lumière aussi qui passe à travers nos fêlures et qui irradie.
C'est la première fois que vous écriviez sur ce sujet, comme vous disiez, encore tabou aujourd'hui ?
Oui, complètement. C'est vraiment suite à cet événement personnel qui m'a permis de me poser aussi. Il m'a arrêtée pendant quelques mois. Et c'est plus tard que j'ai réussi à prendre un peu cette distance-là et à poser des mots, en fait, dessus. Et pour moi, c'est très symbolique puisque c'est une naissance, finalement, malgré tout.
Et que ce soit plus spécifiquement ce recueil-là, en plus qu'il soit primé, est-ce que ça ajoute encore quelque chose puisque c'est très personnel aussi, si j'ai bien compris ?
Oui, complètement. C'est vraiment très, très symbolique pour moi, au-delà d'une reconnaissance de mes écrits, de la valeur de mes écrits. C'est vraiment symbolique pour le sujet, pour le partage qu'on en fait derrière et que je vois dans la façon, quand les personnes le lisent, le partage que j'en ai, je trouve, vraiment, je pense que ça devait être celui-là. Les retours sont vraiment positifs, tant au niveau de ceux qui n'aiment pas a priori trop la poésie ou qui pensent qu'ils n'aiment pas et qui sont touchés, ou des témoignages de... j'ai un exemple, en fait, d'une dame à Dijon qui a peut-être 75-80 ans et qui est venue me dire, la main sur l'épaule, j'ai vécu la même chose, j'en ai pas parlé, très peu à mon mari, et elle m'a dit merci. Voilà, donc je me dis que le partage est vraiment important. C'est vraiment ce qui m'émeut aussi, en fait, c'est vraiment de le partager. Si ça peut en plus trouver des échos chez des personnes qui vivent ça ou qui l'ont vécu ou qui... Enfin, moi, il y a des personnes qui m'achètent le recueil pour l'offrir parce qu'ils ont connu, ils connaissent quelqu'un qui se sont retrouvés dans cette même situation. Et du coup, oui, je trouve que c'est un chouette partage, vraiment. C'est une espèce de deuil de quelque chose qui n'a pas eu de consistance matérielle pour les autres, en fait. Et j'ai l'impression que c'est compliqué, du coup, même parfois pour les proches, de demander comment ça va, parce que soit on n'ose pas, soit on pense que la personne ne veut pas en parler, ou soit on se dit, bon, bah, on passe à autre chose. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en fait. Je ne m'autorisais pas à en parler, en fait, de trop. J'ai vraiment vécu la chose un peu plus de façon intérieure et j'ai du coup eu besoin de l'écrire, je pense.
Donc il y a toute cette partie écriture, donc où vous prenez la plume. Et puis il y a une autre partie, cette passion-là qui vous anime depuis longtemps, vous l'avez dit. Vous souhaitez aussi la partager lors d'ateliers d'écriture. Qu'est-ce que vous pouvez proposer et pourquoi justement être passé, alors pas de l'autre côté de la barrière, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas... proposer aux autres aussi d'écrire.
Alors c'est pareil, un long cheminement, mais de base du coup j'ai un peu la casquette plutôt médiatrice culturelle ou responsable du service des publics, donc toujours au service des publics en fait, qui est importante à mes yeux aussi, vraiment toute cette médiation, tout le côté contact avec le public, je le trouve très important parce que l'écriture c'est quand même une activité qui est solitaire, dont j'ai besoin aussi, mais à côté de ça j'ai vraiment plaisir à partager avec les participants. J'ai eu envie de savoir le faire, de pouvoir faire écrire. Du coup, je me suis formée aussi à l'animation d'ateliers d'écriture spécifiquement à viser bien-être ou mieux-être en tout cas. Et peut-être les amener à reconnecter avec leurs émotions et pouvoir aussi écrire sur des sujets qui leur tiennent à cœur ou en tout cas partager. En tout cas, vraiment un plaisir d'être ensemble, le plaisir d'écrire et d'être ensemble.
Et alors, pour qu'on puisse un petit peu visualiser, comment ça peut se passer un atelier ? Mais est-ce que vous donnez un thème ? Et là, c'est très libre. Est-ce que ce sont plutôt, pour l'instant, des gens qui déjà écrivent un petit peu ou pas du tout, qui peuvent être assez réfractaires ? Et là, c'est à vous de les amener à l'écriture. Comment ça se passe ?
Alors, j'ai envie de dire, ça dépend, mais en général, il y a des choses très communes. Donc déjà, j'interviens en général soit en médiathèque, soit je peux intervenir dans les musées, dans la rue, enfin, plein de choses différentes via des structures qui me font travailler. L'idée de base, elle est la convivialité, la rencontre. Il y a des choses communes, renouer avec sa créativité, prendre du temps pour soi, se reconnecter à ses émotions, son ressenti. Donc, c'est pas du tout un atelier d'écriture littéraire. Donc, je précise juste, en fait, la différence, c'est que là, on vient, on n'est pas du tout, si on pense qu'on ne sait pas écrire, en général, on sait écrire un minimum, mais si, et encore, c'est pas grave, on peut dessiner. Donc, si on trouve pas le mot juste, on dessine, on s'autorise plein de choses, on écrit ou pas, on lit ou pas. Enfin, il y a beaucoup de liberté. L'idée, c'est vraiment, en fait, la personne, elle va être au centre de l'atelier, elle va être au centre du processus. On va pas, c'est pas l'écrire final, en fait. C'est vraiment tout ce qui se passe dans ce moment-là, dans cette bulle où on est 2 heures ensemble, 2 heures pour soi, dans un emploi du temps souvent chargé. Et effectivement, dans ces 2 heures-là, on va faire beaucoup de choses, donc avec plusieurs consignes d'écriture sur des thèmes qui peuvent être très différents. Et il y a plusieurs temps d'écriture. Il y a des temps de, il y a un temps souvent de d'échauffement, d'espèce de météo où là, on prend contact avec nos ressentis. Et il y a toujours un moment un peu de visualisation guidée, en fait, un peu où voilà, vous prenez le temps, en fait, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter la nature, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça.
Et vous précisiez, vous insistiez même sur le fait que ce sont des ateliers d'écriture bien-être. Qu'est-ce que ça peut permettre sur ceux que vous avez déjà menés, par exemple ?
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. D'ailleurs, c'est mieux de dire mieux-être parce qu'il n'y a pas d'injonction au bien-être. En fait, on vient comme on est avec les émotions qu'on a. Si elles doivent sortir, elles sortiront. Si elles ne sortent pas, elles ne sortent pas. C'est juste pour s'amuser, en fait, aussi. C'est vraiment l'idée de s'amuser avec les mots, d'avoir envie de découvrir des choses. Et effectivement, parfois, ça va passer par des petites émotions à sortir. Et puis... on remarque que dans l'écriture, souvent, en fait, il y a des études scientifiques qui sont faites qui ont prouvé que l'écrire était bon pour la santé. Donc, je dirais que déjà, si on a envie de, chez soi, le soir, écrire un peu, enfin, voilà, comme le fameux journal intime de base, on peut faire sortir ça. Et le mieux-être, on ne l'a pas forcément tout de suite. Des fois, il peut arriver plus tard. Parfois, il faut passer par une phase un petit peu moins confortable. Mais l'idée, c'est vraiment d'être toujours connecté à ça, en fait. Et on ne se bouscule pas, on ne va pas trop loin, on s'écoute en fait aussi. Mais effectivement, comme je vous disais, l'écriture est vraiment très, très réputée, bonne pour la santé. Voilà, quelque chose qui se passe entre l'idée, entre le cerveau qui va jusqu'à la main et la main au cerveau. Et prendre ce temps-là en fait. Et quand on écrit, notamment sur des traumatismes, c'est un peu comme si on faisait un transfert d'un ordinateur à un autre ordinateur pour un peu alléger sa charge mentale. Il y a vraiment des choses qui se passent physiquement aussi.
Et ce sont des ateliers qui peuvent s'adresser à qui, finalement ?
À tous, en fait. Fin avril, je vais en proposer un à la bibliothèque d'Argentrée, qui est plutôt famille, autour de la poésie, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas tout le temps que de la poésie. Je peux m'adapter aux structures, je peux m'adapter aux thèmes. Voilà, j'en ai un de programmé aussi dans le cadre de l'exposition au Zoom sur l'amour. Là, on sait qu'il y aura la thématique, qui sera plus adulte. Après, je prévois aussi d'en faire plus tard un peu pour les enfants également. Voilà, vraiment, ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où ils savent plus ou moins écrire. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi dessiner quand on ne trouve pas le mot, ou si on a envie, ou si on est inspiré sur le moment pour dessiner.
Son recueil L'Enfant Lumière est disponible notamment à Laval, à la librairie Emnir ou à la FNAC, mais aussi à la librairie du Marais à Mayenne. Et pour participer à son prochain atelier d'écriture, bien-être... Et pour participer à son prochain atelier écriture et bien-être ce samedi, il faut vous inscrire au 02 72 95 12 01 ou bien envoyer un mail à biblio@argentree.fr. C'est ce samedi à 14h30, donc à la bibliothèque d'Argentrée. On revient d'ici quelques minutes pour la chronique de Donatien, juste après avoir écouté Yael Naïm avec son titre « I Walk Until ». I walk until drops. I walk until you grow. I walk until I walk on tiptoes. I feel like I'm starting down an endless road. Le monde est-il, las? Le monde est-il le monde est-il pile ou face? Le monde est-il sous plaie ou Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio dans la JT du local. Et comme chaque mardi, notre rendez-vous, c'est avec Donatien, où l'on parle d'activité physique aujourd'hui, et plus précisément de marche à pied, mais pas seulement.
Bravo au jeune kayakiste Simon Billy, nouveau recordman du monde, puisque dans les Hautes-Alpes, ce sportif a établi un nouveau record de vitesse sur ski. Il a descendu 1400 mètres en 14 secondes, atteignant sur 100 mètres la vitesse de 255 km/h, revêtu d'une combinaison d'extraterrestres et couvert d'un casque parfaitement aérodynamique. Flashé à 51 km/h dans sa bonne ville de Château-Gontier sur Mayenne, Donatien ne comprend pas pourquoi certains radars pénalisent sa Renault 5 d'un autre âge. Doit-il envisager de l'équiper d'une paire de skis pour être applaudi lorsqu'il dépassera les 250 km/h en dévalant la grande rue, malheureusement en sens interdit et de toute manière désespérément dépourvu depuis des années de toute trace de neige. Que ce soit dans un bassin d'eau chlorée, sur un couloir d'athlétisme bitumé ou sur une piste enneigée, Donatien n'a jamais adhéré à cette quête de la performance, à cette apologie de la vitesse. Il préfère arpenter le temps, marcher à l'amble de ceux qui vont lentement pour voyager plus loin. Si pour les scouts, la meilleure façon de marcher, c'est de mettre un pied devant l'autre, pour Donatien, c'est aussi de s'asseoir dès que faire se peut sur ces bancs disposés par le sculpteur Louis d'Herbré le long du chemin de halage qui borde la Mayenne. Couverts de mousse depuis plusieurs années, ils offrent aux promeneurs le loisir de prendre une pause pour regarder filer les cyclistes pressés qui ont électrifié leurs bicyclettes, oubliant de se laisser porter par le courant qui, lui, prend tout son temps. Pensif, Donatien s'attarde à suivre du regard un tronc à la dérive qui descend le lit de la rivière sans risque d'être flashé par aucun radar. Donatien reprend la marche, cale sur la vitesse de ce bois flottant le rythme de ses pas. Il se dit que le bonheur est peut-être là, juste au bout de ses souliers et sous les aulnes qui bordent le chemin, Donatien fredonne une chanson.
Moi, je suis venu à pied et doucement, sans me presser, j'ai marché à pied, j'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant à pied, dans la rue il faisait bon, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. J'aurais pu, ça me fatiguer, traverser Paris entier en marchant à pied, j'aime déambuler au hasard, je vais partout, je ne vais nulle part, mais simplement pour voir des rues, les belles boutiques sur les avenues et les filles aux sourires gracieux, avec des promesses plein les yeux, les crieurs de journaux du soir, les enfants qui jouent dans les squares. À ce que la vie peut être belle, y a des filles en ribambelle tout autour de mes semelles. Je me sens si léger, léger, je voudrais toutes les enlacer, les aimer, les caresser. J'espère un jour rencontrer le vrai bonheur à la portée du bout de l'un de mes souliers. Je suis sûr de le trouver, quitte à faire le monde entier en marchant à pied, à pied. en marchant à pied, à pied.
Et oui, une musique signée Yves Montand, Je vais à pied. Et pendant vos balades, c'est l'occasion justement de réécouter Donatien dans ses œuvres grâce au podcast. Merci Donatien et à mardi prochain. Puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, évidemment, je vous invite à rester sur l'autre radio puisque ça y est, vos émissions sont là. À 19h, il y aura Sorcière et ce sera suivi à 21h de l'émission Frères de Chaussures. Et nous, on revient demain. Je vous souhaite une très belle journée.